déjà posé la question suivante? Qu'est-ce que je dois offrir à Dieu pour qu'il me pardonne toutes mes fautes? Reste à l'écoute. Dieu va nous donner la réponse à cette question et à plusieurs autres, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ». Bonjour, ici Caro. Voici les questions auxquelles Dieu va nous répondre aujourd'hui. Elles sont peut-être tes questions. Y a-t-il toujours eu un conflit, un combat entre le bien et le mal? Est-ce que c'est Dieu qui vient vers l'homme pécheur et qui l'appelle? Comment se fait-il qu'Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite après avoir mangé du fruit défendu, alors que Dieu leur avait dit qu'ils mourraient le jour où ils en mangeraient? Dieu parle-t-il d'une autre mort? De quelle manière est-ce que Dieu peut couvrir nos fautes? Quelle sorte de sacrifice est-ce que Dieu agrée pour couvrir nos fautes? Pourquoi est-ce que Dieu agrée le sacrifice d'Abel et non celui de Caïn? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu couvre toutes mes fautes? Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il a les réponses à toutes nos questions et il aime nous instruire. Il veut se faire connaître à nous, nous révéler son amour et le moyen d'avoir accès à lui. Alors écoutons ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Mon Dieu, j'ai l'impression que le temps s'arrête quand tu parles à mon cœur, quand j'ouvre ta parole et que je lis et que j'écoute ta voix. Je veux entendre ta voix aujourd'hui. Nos auditeurs veulent entendre ta voix. Alors parle-nous, instruis-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, nous sommes maintenant au troisième chapitre du livre de la Genèse, et aujourd'hui, nous allons voir les conséquences de cette désobéissance de l'homme, appelée communément la chute. Nous sommes rendus au verset 14. Nous avons vu que l'homme que Dieu a créé s'est détaché de lui. Et maintenant, Dieu doit régler cette situation et le juger. Verset 14 de Genèse 3. L'Éternel, Dieu, dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. » Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le serpent ne ressemblait pas à la créature en pente que nous connaissons aujourd'hui. Il était différent au début, et Dieu l'a condamné. Dieu a prononcé un jugement sur Satan, et celui-ci a une portée profonde en ce qui concerne l'homme. Je vous encourage fortement à mémoriser le verset suivant, car vous devriez connaître ce verset. Ce verset est la première prophétie au sujet de la venue dans le monde du Messie qui est le Sauveur. Lisons-le ensemble. Verset 15. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » « Je mettrai une inimitié entre toi, c'est-à-dire Satan et la femme. » Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, celle de la femme, c'est-à-dire Christ, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cet énoncé a toute une portée. Cependant, la pensée la plus importante n'est pas la victoire ultime de Christ qui viendra un jour, mais le long combat entre le bien et le mal qui va s'en suivre. Ce verset nous révèle le fait qu'il va y avoir un combat acharné entre le bien et le mal, un combat de longue durée, de longue haleine. Nous voyons ce combat dans le reste de la Bible. Notre Seigneur Jésus a dit quelque chose au sujet de ce combat lorsqu'il est venu la première fois. Je cite, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean, chapitre 8, verset 44. Le diable, c'est Satan. Le Seigneur Jésus a fait une distinction entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. L'apôtre Jean parle de ce conflit dans sa première épître. Je cite, 1 Jean chapitre 3, verset 10. « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Donc, la Bible nous présente le fait qu'il y a un conflit, qu'il y a un combat et qu'il y a deux postérités dans ce monde. Il y aura une victoire finale, mais il est important de se rendre compte que le conflit durera longtemps. Tout homme doit faire face à la tentation et gagner la bataille. Avant la venue de Christ, la victoire s'obtenait par l'obéissance dans la foi. Après la venue de Christ, nous devons nous identifier à Christ par la foi. Que signifie être sauvé? C'est être en Christ. Il y a trois classes d'être créés par Dieu. Les anges, l'homme et les animaux. Les animaux sont incapables de faire un libre choix. Mais ce n'est pas le cas de l'homme et des anges. Ici, nous voyons le choix qu'a fait l'homme. Il a pris une décision et il est responsable de celle-ci et de ses conséquences. Notez que Dieu, en s'adressant à la femme, dit « ta postérité ». Le texte ne parle pas de la postérité de l'homme, mais celle de la femme. Ceci fait allusion au fait que Christ a choisi une vierge pour s'incarner. Lorsque Dieu est venu au jardin pour rencontrer l'homme, il dit « Où es-tu ?» L'homme s'est caché de Dieu, et c'est Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver. C'est Dieu qui l'a appelé. « Où es-tu ?» C'est l'appel de la justice divine qui ne peut ignorer le péché. C'est l'appel du chagrin divin qui a compassion des pécheurs. C'est l'appel de l'amour divin qui nous donne un Rédempteur pour nos péchés. Nous retrouvons tout cela dans ce verset que nous examinons présentement. Nous avons la promesse qu'un Sauveur viendra un jour. Dans toute la Bible, nous voyons un Dieu qui vient vers l'homme. L'apôtre Paul a écrit, et je cite, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Romains chapitre 3, verset 11. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Jean, chapitre 15, verset 16. Nous pouvons tous reconnaître ce qu'a écrit l'apôtre Jean pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Dieu cherche l'homme et vient vers lui le premier. Il lui offre le salut de son âme, mais il y aura un long conflit qui s'ensuivra. Revenons à notre texte, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Nous avons ici la condamnation que Dieu a prononcée sur la femme. Elle ne peut donner naissance à un enfant sans souffrir. Nous remarquons que cela est très vrai. C'est ainsi que se passent les choses. La naissance d'un enfant qui apporte une joie dans la vie et qui perpétue la race humaine se fait dans la souffrance. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Ceci est la condamnation de l'homme. L'homme est maintenant sujet à la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort physique est la séparation de l'esprit, de l'âme, du corps. Ecclésiaste affirme, un livre de l'Ancien Testament, et je cite, « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Éventuellement, l'homme doit rendre des comptes à Dieu. Sauvé ou perdu, il devra rendre des comptes à Dieu. Cependant, Adam n'est pas mort physiquement le jour où il a goûté au fruit de l'arbre. Il a vécu au-delà de 900 ans après cet événement. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il est mort spirituellement le jour où il a désobéi. Il s'est retrouvé séparé de Dieu. Dans la parabole touchante du fils prodigue, le Seigneur nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est parti du foyer familial. Lorsqu'il est revenu, le père a dit à son frère aîné, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Luc, chapitre 15, verset 24. Est-ce que nous lisons bien le mot « mort » C'est cela. Mais il n'était pas mort physiquement. En fait, il était séparé de son père. Être séparé du père signifie que nous sommes morts, séparés du Père Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, et je cite, « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean, chapitre 11, verset 25. Encore une fois, nous voyons que mort signifie mort spirituellement, c'est-à-dire être séparé de Dieu. L'homme est mort spirituellement au moment où il a mangé du fruit défendu. C'est pour cela qu'il s'est caché de Dieu. C'est pourquoi il s'est fabriqué une ceinture de feuilles de figuier. Revenons à notre texte, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Cela ne signifie pas que Caïn et Abel sont nés dans le jardin d'Éden, mais soyons assurés qu'ils sont nés après la chute d'Adam et Ève. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Pour obtenir une peau d'animal, il faut en tuer au moins un. Je pense que nous avons ici l'institution des sacrifices. Nous assistons au premier sacrifice offert à Dieu. Dieu s'est assuré qu'Adam comprenne bien l'importance du sacrifice. Dieu a rejeté leur ceinture de feuilles de figuier, mais il leur a fait des vêtements de peau. Et lorsqu'Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, ils ont vu deux chérubins qui regardaient le sang de l'animal tué pour eux. Ce sont deux chérubins en or que Moïse a placés sur l'arche dans le tabernacle. Deux chérubins qui regardaient le sang versé pour les pécheurs. Ce sang représente le chemin à Dieu, le sang de Christ versé à la croix. Le fait que Dieu a remplacé les vêtements de feuilles de figuier par des vêtements de peau nous enseigne quatre vérités importantes. Les voici. Premièrement, pour approcher Dieu, il faut que nos péchés soient couverts. Nous ne pouvons venir à Dieu en nous appuyant sur nos bonnes œuvres. Nous devons nous approcher comme des pécheurs coupables. Deuxièmement, les vêtements de feuilles, fruits, d'efforts personnels sont inadmissibles. Dieu n'accepte pas nos œuvres. Troisièmement, Dieu doit couvrir lui-même nos péchés. Et quatrièmement, le sang de Christ, versé à la croix, nous purifie de tout péché. C'est ça la couverture de nos péchés. La colère de Dieu contre le péché doit être déversée sur un substitut, une autre personne à notre place. Même de nos jours, nous devons considérer cela. Il est très difficile pour une personne de prendre sa place de pécheur perdu devant Dieu. Voici la traduction libre d'un poème anonyme sur la prière qui exprime la nécessité de venir à Dieu les mains vides. J'ai prié pour la force d'accomplir de grandes choses. Il m'a rendu faible afin que j'obéisse. J'ai prié pour la santé afin d'accomplir de plus grandes choses. Il m'a rendu infirme afin qu'il accomplisse de plus grandes choses. J'ai prié pour des richesses afin d'être plus heureux. Il m'a gardé pauvre afin de me donner la sagesse. J'ai prié pour de la puissance afin d'être admiré des hommes. Il m'a rendu infirme afin que je constate mon besoin de Dieu. J'ai prié pour tout avoir afin de jouir de la vie. Il m'a donné la vie pour que je jouisse de toutes choses. Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé ou souhaité obtenir. Ma prière fut répondue, je fus très béni. Dieu nous accorde sa miséricorde et le salut lorsque nous venons à lui les mains vides, comme des pécheurs perdus. Versets 22 et 23. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Je peux seulement louer le Seigneur, parce qu'il n'a pas laissé l'homme vivre dans le péché éternellement, et qu'il ne nous laissera pas en faire autant. C'est une véritable bénédiction. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu n'a pas monté une barricade pour les empêcher d'y retourner. Cela signifie que Dieu a maintenu un chemin pour venir à lui et vivre. Cependant, ce chemin ne passe pas par l'arbre de la vie. Le salut s'obtient au moyen d'un sacrifice, et lorsqu'Adam et Ève se retournaient, ils voyaient le sang d'un sacrifice. Maintenant, nous arrivons au quatrième chapitre du livre de la Genèse. Dans le chapitre 3, nous avons la racine ou l'origine du péché. Dans le chapitre 4, nous avons les fruits du péché. Les deux premiers chapitres traitaient de la création. Les deux suivants traitaient du péché. Combien grave ou mauvais est le péché? Bien, nous allons voir que l'homme n'a pas souffert d'un simple empoisonnement de sang pour avoir goûté un fruit avarié qu'il a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le chapitre 4 nous montre toute l'ampleur des conséquences du péché d'Adam. Par son manque de foi en Dieu et par sa désobéissance, il s'est détaché de Dieu, il a péché de telle sorte qu'il a attiré le jugement de Dieu sur lui, ainsi que sur la race humaine. Nous avons la même nature qu'Adam. Nous avons la même nature que nos ancêtres, et nous avons tous reçu la nature pécheresse d'Adam. Nous voyons tout cela à travers le récit des deux premiers fils d'Adam et Ève. Ils ont eu plus d'enfants que les deux mentionnés dans le texte, mais la Bible ne nous parle que de ces deux hommes. Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Ceci semble indiquer qu'Adam et Ève ne s'attendaient pas à un conflit très long. Lorsque Caïn est né, Ève a dû se dire, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Dieu a dit que la postérité de la femme brisera la tête du serpent, et voici ma postérité. Mais Caïn n'est pas la personne à qui Dieu pensait. Il était un meurtrier, et il faudra attendre très longtemps avant l'arrivée du Sauveur. Pendant tout ce temps-là, la postérité de la femme et la postérité du serpent étaient en perpétuel conflit. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Le verbe hébreu employé pour dire que Caïn a apporté ou fait une offrande suggère que ce fut fait à un endroit désigné. ils apportent des sacrifices à un endroit désigné pour adorer Dieu. Il semble que ce soit d'après une révélation qu'ils agissent ainsi. Je dis cela à cause d'un passage de l'Épître aux Hébreux où nous lisons, et je cite, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Hébreux, chapitre 11, verset 4. Comment Abel pouvait-il offrir un sacrifice par la foi? Lisons ensemble, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu a dû donner des instructions au sujet des sacrifices, car Abel n'aurait pas pu agir par la foi, et pourtant c'est cela qu'il a fait. Son frère n'a pas agi pareillement. Il apporta une offrande des fruits de la terre. Le problème n'était pas avec la qualité des fruits. Caïn n'a pas apporté des restes à Dieu. Il n'a pas l'attitude de la personne qui donne des vieilleries aux missions. Je pense que les fruits qu'il a apportés auraient gagné des prix s'il les avait présentés à une foire agricole. Il a apporté les meilleurs fruits de sa récolte, de beaux fruits délicieux. Il les a apportés comme offrande au Seigneur. Versets 4 et 5. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Certains se demandent peut-être ce qui n'allait pas avec l'offrande de Caïn. Ils ne voient rien de mal dans le geste de Caïn, pourtant. Voyez ce que dit le 11e verset de l'Épître à Jude. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Jude, verset 11. « Quelle est la voie de Caïn? Lorsque Caïn a apporté une offrande à l'Éternel, il est venu de lui-même et non par la foi. » Son offrande niait le fait que la nature humaine soit pécheresse. Le sacrifice de Caïn niait aussi le fait que l'homme ne puisse offrir le fruit de ses efforts à Dieu. Caïn pensait qu'il pouvait le faire. La Bible dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » L'Épître de Paul à Tite, chapitre 3, verset 5. La justice acceptable à Dieu ne peut que nous être donnée par celui-ci. Ce doit être une justice parfaite, et c'est Christ qui la pourvoit pour nous. Sa justice parfaite est mise sur notre compte. Christ est ressuscité pour notre justification. C'est lui qui a pris notre place. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, je cite, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La justice de Caïn était sa propre justice. La justice d'Abel était sa foi dans un sacrifice représentant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission. En lisant Genèse chapitre 4, verset 6, jusqu'à Genèse chapitre 5, verset 22.
Merci, Régent. Moi, ça me dépasse de penser que c'est moi qui ai péché contre Dieu, mais que c'est lui qui me cherche, qui vient vers moi, qui m'appelle. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est Jésus lui-même qui est venu frapper à la porte de mon cœur il y a plus de 25 ans. Et je n'ai jamais regretté de l'avoir laissé entrer. J'étais morte spirituellement, mais je suis née de nouveau. Comme l'exemple de l'enfant prodigue. Réjean nous a enseigné que lorsqu'il est retourné chez lui, son père a dit « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » On a vu aujourd'hui que le seul sacrifice que Dieu agrée pour couvrir nos fautes, c'est celui de son fils Jésus. Il y a tellement de gens qui essaient de se sauver eux-mêmes en faisant toutes sortes de bonnes œuvres, toutes sortes de sacrifices. Et pourtant, Paul dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dieu veut avoir toute la gloire en toutes choses, puis il en est digne. Est-ce qu'il n'est pas mon Créateur? Est-ce qu'il n'est pas éternel? Et pourtant, nous, les humains, on cherche à établir notre propre justice. On n'est pas soumis à la justice de Dieu, comme Réjean nous l'a enseigné aujourd'hui. On s'imagine qu'on va se rendre agréable à Dieu en pratiquant notre religion ou en faisant des bonnes œuvres. Mais nos sacrifices ne peuvent jamais être parfaits, parce que nous, on n'est pas parfaits. Puis si on est honnête, on va avouer que notre propre justice est loin d'avoir la perfection de la justice de Dieu. Mais Dieu, lui, dans son amour, a envoyé Jésus sur la terre pour offrir le sacrifice ultime. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et toi, mon ami, quelle justice est-ce que tu choisis? Celle de Caïn, qui était sa propre justice, ou celle d'Abel, qui était sa foi dans un sacrifice représentant celui de Jésus à la croix? Crois-tu en ce sacrifice? Il a été fait une fois pour toutes. Il y a 2000 ans, Jésus s'est livré lui-même aux mains des pécheurs. Il est devenu le sacrifice ultime, lui qui était pur, sans péché. Dieu a accepté cet agneau immolé comme sacrifice pour nos péchés, pour tes péchés. Repens-toi. Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché et accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme maître de ta vie.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Réjean Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.